Chapitre 16. La manne. Les murmures du peuple. Et ils partirent d'Élim, toute l'assemblée des fils d'Israël, et vinrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Verset 1. Nous voyons ici Israël dans une position significative, savoir entre Élim et Sinaï. Le premier de ces lieux était celui où il venait de goûter les eaux rafraîchissantes du ministère divin. Le second était celui où il allait abandonner le terrain de la grâce gratuite et souveraine pour se placer sous une alliance d'œuvre. Les enfants d'Israël sont ici les objets de la même grâce que celle qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et Dieu répond à leurs murmures par un secours immédiat. Quand Dieu agit dans la manifestation de sa grâce, il n'y a aucun obstacle pour lui. Les bénédictions qui ont leur source en lui coulent sans interruption. Quand l'homme se place sous la loi, il perd tout, car alors il faut que Dieu lui laisse faire l'expérience de ce à quoi il peut arriver sur la base de ses œuvres. Quand Dieu racheta son peuple et le fit sortir du pays d'Égypte, ce ne fut certainement pas dans le but de le laisser mourir de faim et de soif dans le désert. Les fils d'Israël auraient dû le savoir. Ils auraient dû se confier en Dieu et marcher dans la jouissance de cet amour qui les avait délivrés d'une manière si glorieuse des horreurs de leur esclavage en Égypte. Ils auraient dû se souvenir qu'il valait infiniment mieux être dans le désert avec Dieu qu'au milieu des fours à briques avec le Pharaon. Mais le cœur humain a beaucoup de peine à croire à l'amour pur et parfait de Dieu. Il fait plus facilement confiance à Satan qu'à Dieu. Voir Genèse 3, versets 1 à 6. Considérez un instant toutes les souffrances, toute la misère et la dégradation que l'homme a endurées pour avoir écouté la voix de Satan. Et cependant, jamais vous ne l'entendez se plaindre de son service, ni exprimer le désir de se soustraire à sa main. L'homme n'est pas mécontent de Satan, ni fatigué de le servir. Nous agissons bien différemment à l'égard de Dieu. Nous sommes prêts, dès la première épreuve, à murmurer et à nous révolter, et cela parce que nous ne cultivons pas un esprit de reconnaissance et de confiance. Nous oublions mille dons de Dieu à la vue de la plus légère privation. Nous avons reçu le pardon gratuit de tous nos péchés. Éphésiens 1, verset 7, Colossiens 1, verset 14. Nous avons été rendus agréables dans le bien-aimé. Éphésiens 1, verset 6. Nous avons été faits héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Éphésiens 1, verset 11, Romains 8, verset 17, Galates 4, verset 7. Nous attendons la gloire éternelle. Romains 8, verset 18 à 25, 2 Corinthiens 4, verset 15, 2 Corinthiens 5, verset 5, Philippiens 3, verset 20 et 21, Galates 5, verset 5, Tite 2, verset 13, 1 Jean 3, verset 2, etc. De plus, notre chemin à travers le désert est semé d'innombrables faveurs. Romains 8, verset 28. Malgré cela, dès qu'un petit nuage apparaît à l'horizon, nuage qui ne fera peut-être que se fondre en bénédiction sur nos têtes, aussitôt nous oublions les multiples grâces qui nous ont été accordées. Cette pensée devrait nous humilier profondément dans la présence de Dieu. Combien différent a été notre modèle ? Regardez-le, lui, dans le désert, entouré de bêtes sauvages et jeûnant pendant 40 jours. A-t-il murmuré? S'est-il plaint de son sort? A-t-il désiré être dans d'autres circonstances? Non, Dieu était la portion de son héritage et de sa coupe. Psaume 16, verset 5. C'est pourquoi, quand le tentateur s'approcha de lui et lui offrit les choses nécessaires à la vie, puis ses gloires et ses honneurs, il refusa tout et demeura ferme dans sa position de dépendance absolue de Dieu et d'obéissance à sa parole. Il ne voulait recevoir du pain que de Dieu, et de même la gloire. Il en fut bien autrement d'Israël. Ils n'eurent pas plutôt senti la souffrance de la faim qu'ils murmurèrent dans le désert contre Moïse et contre Aaron. Il semblait qu'ils avaient oublié que c'était l'Éternel qui les avait délivrés, et ils dirent: « Vous nous avez fait sortir dans ce désert. » De même, au chapitre suivant, le peuple murmura contre Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi et mes enfants et mon bétail ?» Chapitre 17, verset 3. C'est ainsi qu'ils manifestèrent un esprit d'irritation et de mécontentement et montrèrent combien peu ils réalisaient la présence de leur puissant libérateur et savaient s'appuyer sur lui. Combien Dieu est déshonoré par les murmures de ceux qui lui appartiennent. L'apôtre Paul parle de cet esprit comme d'une marque spéciale de la corruption des gentils. Ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne lui rendirent grâce. Romains 1, verset 21. Puis il en signale la conséquence pratique. Ils devinrent vains dans leur raisonnement, et leurs cœurs destitués d'intelligence furent remplis de ténèbres. Celui qui nourrit pas dans son cœur un sentiment de gratitude envers Dieu pour sa bonté sera bientôt rempli de ténèbres. Ainsi, Israël perdit le sentiment qu'il était dans les mains de Dieu. Et comme on devait s'y attendre, il fut entraîné dans des ténèbres encore plus épaisses. Nous les entendons dire, à une époque plus avancée de leur histoire, « Pourquoi l'Éternel nous fait-il venir dans ce pays pour y tomber par l'épée, pour que nos femmes et nos petits-enfants deviennent une proie ?» Nombre 14, verset 3. Telle est la pente sur laquelle descend une âme qui a perdu la communion avec Dieu. Elle commence par ne plus avoir la conscience qu'elle est entre les mains de Dieu pour sa bénédiction, et elle finit par se croire dans les mains de Dieu pour son malheur. Le pain du ciel. Toutefois, Israël étant placé jusqu'ici sous la grâce, Dieu pourvoit à ses besoins d'une manière merveilleuse, comme nous l'apprend ce chapitre. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain. » Verset 4. Dans leur incrédulité, ils avaient dit, « Ah, que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis auprès des pots de chair, quand nous mangions du pain à satiété. » Et maintenant, Dieu parle de pain venant des cieux. Quel contraste! D'un côté, les pots de chair et le pain de l'Égypte, de l'autre, le blé des cieux, le pain des puissants. Psaume 78, versets 24 et 25. Les premiers appartenaient à la terre, le dernier au ciel. Mais cette nourriture céleste était une pierre de touche pour éprouver la condition d'Israël, ainsi qu'il est écrit, « Afin que je l'éprouve, pour voir s'il marchera dans ma loi ou non. » Verset 4. Il fallait un cœur sevré des influences de l'Égypte, pour être satisfait du pain du ciel ou pour en jouir. Nous savons que les Israélites n'en furent pas contents, car ils le méprisèrent, le déclarant un pain misérable. Nombre 21, verset 5. Ils convoitèrent de la chair, montrant ainsi combien peu leur cœur était délivré de l'Égypte ou disposé à observer la loi de l'Éternel. Ils retournèrent de leur cœur en Égypte. Mais au lieu d'y retourner de fait, ils furent plus tard transportés au-delà de Babylone. Acte 7, versets 39 et 43. C'est une sérieuse leçon pour les chrétiens. Si ceux qui ont été délivrés de ce présent siècle ne marchent pas avec Dieu avec des cœurs reconnaissants, satisfaits de ce que Dieu donne à ses rachetés dans le désert, ils sont en danger de tomber dans les pièges de l'influence babylonienne. Il faut avoir des affections célestes pour se nourrir du pain du ciel. Le cœur naturel ne peut pas savourer une telle nourriture. Il soupire toujours après l'Égypte. C'est pourquoi il faut qu'il soit tenu dans l'humiliation et l'assujettissement. Christ, le pain vivant qui est descendu du ciel. Nous, chrétiens qui avons été baptisés pour la mort de Christ, ensevelis avec lui dans le baptême, et ressuscités ensemble par la foi en l'opération de Dieu, Romains 6, verset 3, Colossiens 2, verset 12, nous avons le privilège de nous nourrir de Christ comme du pain vivant qui est descendu du ciel, Jean 6, verset 51. Notre nourriture dans le désert, c'est Christ, tel qu'il nous est présenté par le Saint-Esprit, par le moyen de la parole écrite, tandis que notre breuvage spirituel, c'est le Saint-Esprit, venu comme l'eau jaillissant du rocher frappé, de Christ frappé pour nous. Telle est notre part excellente dans le désert de ce monde. Or, pour jouir de cette part, il faut que notre cœur soit détaché de tout ce qui est de ce présent siècle mauvais, de tout ce qui pourrait s'offrir à nous comme homme naturel, comme homme vivant dans la chair. Un cœur mondain, un cœur charnel, ne trouverait pas Christ dans l'Écriture, ni ne jouirait de lui s'il l'y trouvait. La manne était si pure, si délicate, qu'elle ne supportait pas le contact avec la terre. Elle descendait sur la rosée, versets 13 à 16, nombre 11, verset 9, et devait être recueillie le matin avant la chaleur du jour, verset 21. Chacun devait donc se lever de bonne heure pour chercher sa nourriture quotidienne. De même maintenant, il faut que le peuple de Dieu recueille fraîche tous les matins la manne céleste. La manne d'hier ne suffit pas pour aujourd'hui, ni celle d'aujourd'hui pour demain. Il faut que nous nous nourrissions de Christ chaque jour, avec une nouvelle énergie de l'esprit, sans quoi nous cesserons de croître. De plus, Christ doit être notre premier objet. Il faut que nous le cherchions de bonne heure, avant que d'autres choses n'aient eu le temps de s'emparer de nos cœurs. Hélas, nous manquons facilement à cet égard. Nous ne donnons à Christ qu'une place secondaire, et la conséquence en est que nous restons faibles et stériles. L'ennemi, toujours vigilant, profite de notre indolence spirituelle pour nous priver de la bénédiction et de la force que l'on reçoit en se nourrissant de Christ. La vie nouvelle dans le croyant ne peut être alimentée et maintenue que par Christ. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis à cause du Père, de même celui qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi. Jean 6, verset 57. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est descendu du ciel pour être la nourriture de son peuple, est, pour l'âme renouvelée, d'un prix inestimable. Mais pour jouir ainsi de Christ, il est nécessaire que nous réalisions que nous sommes dans le désert, mis à part pour Dieu, dans la puissance d'une rédemption accomplie. Si je marche avec Dieu dans le désert, je serai satisfait de la nourriture qu'il me donne, c'est-à-dire de Christ comme étant descendu du ciel. Le vieux blé du pays, le cru du pays de Canaan, Josué 5, versets 11 et 12, représente Christ monté en haut et assis dans la gloire. Comme tel, il est la nourriture qui convient à ceux qui savent, par la foi, qu'ils sont ressuscités ensemble et assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Mais la manne, c'est-à-dire Christ comme descendu du ciel, est pour le peuple de Dieu dans sa vie et son expérience dans le désert. Comme peuple étranger ici-bas, nous avons besoin d'un Christ qui ait aussi été étranger sur la terre. Comme peuple assis en haut dans le ciel en esprit, nous avons un Christ assis dans le ciel. Ceci explique la différence qui existe entre la manne et le cru du pays. Il n'est pas question ici de la rédemption. Nous l'avons dans le sang de la croix et là seulement. Il s'agit simplement de la nourriture que Dieu donne à son peuple, eut égard aux différentes positions dans lesquelles celui-ci se trouve, soit qu'il lutte dans le désert, soit qu'en esprit il prenne possession de l'héritage céleste. La gloire de l'Éternel dans la nuée. Quel tableau frappant que celui d'Israël dans le désert. Il avait derrière lui l'Égypte, devant lui Canaan, autour de lui des étendues arides, et il était appelé à regarder au ciel pour sa nourriture de chaque jour. Le désert n'avait rien à lui offrir. L'Éternel était sa seule ressource, son seul bien. Les chrétiens n'ont rien ici-bas, leur vie étant céleste. Elle ne peut être entretenue que par des choses célestes. Bien que placés dans le monde, ils ne sont pas du monde. Peuple céleste, ils sont en chemin vers leur patrie et sont soutenus par la nourriture qu'ils en reçoivent. Ils marchent en avant vers le ciel. La gloire les dirige de ce côté seulement. Il est complètement inutile de regarder en arrière vers l'Égypte, on ne peut y découvrir aucun rayon de la gloire. Ils se tournèrent vers le désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Verset 10. La gloire de l'Éternel était dans le désert, et tous ceux qui désiraient être en communion avec Dieu devaient aussi être dans le désert. Et s'ils y étaient, la manne céleste devait être leur nourriture et rien d'autre. La nourriture du chrétien. Cette manne était, il est vrai, un étrange aliment, un aliment tel qu'un Égyptien n'aurait jamais pu ni l'apprécier ni s'en nourrir, mais ceux qui avaient été baptisés, dans la nuée et dans la mer, 1 Corinthiens 10, verset 2, pouvaient, s'ils marchaient d'une manière conséquente avec la position dans laquelle ce baptême les avait introduits, jouir de cette manne et en être nourris. Il en est de même maintenant pour le vrai croyant. L'homme du monde ne comprend pas comment il vit. Sa vie, aussi bien que l'aliment qu'il entretient, sont inaccessibles à l'œil naturel le plus pénétrant. Christ est la vie du chrétien, et il vit de Christ. Il se nourrit, par la foi, de celui qui est sur toute chose Dieu béni éternellement, Romains 9, verset 5, et qui prit la forme d'esclave étant fait à la ressemblance des hommes, Philippiens 2, verset 7. En pensée, il le suit du sein du Père jusqu'à la croix, et de la croix jusqu'au trône. Il trouve en lui, à chaque période de sa carrière et dans chacune des phases de sa vie, un aliment précieux pour l'homme nouveau. Tout ce qui environne le chrétien n'est qu'un désert aride et désolé, n'ayant rien à offrir à l'esprit renouvelé. Et si l'âme y trouve malheureusement un aliment, ses progrès dans la vie spirituelle sont entravés. Qu'il est déplorable de voir des chrétiens rechercher les choses de ce monde. Cela prouve clairement qu'ils sont dégoûtés de la manne céleste et qu'ils l'estiment être un pain misérable. Ils servent ce qu'ils devraient mortifier. L'activité de la vie nouvelle est toujours liée au dépouillement du vieil homme avec ses actions. Colossiens 3, verset 9. Et plus ce dépouillement aura lieu, plus on désirera se nourrir du vrai pain qui soutient le cœur de l'homme. Psaume 104, verset 15. Sur le plan physique, plus on prend d'exercice, plus l'appétit est bon. De même, dans la vie spirituelle, plus nos facultés renouvelées sont mises en jeu, plus nous éprouvons aussi le besoin de nous nourrir de Christ chaque jour. C'est une chose que de savoir que nous avons la vie en Christ, unie à un plein pardon et à une acceptation entière devant Dieu, et c'en est une autre que d'être habituellement en communion avec lui, de nous nourrir de lui par la foi, faisant de lui l'aliment exclusif de nos âmes. Un grand nombre de personnes font profession d'avoir trouvé le pardon et la paix en Jésus, et elles se nourrissent d'une quantité de choses n'ayant aucun rapport avec Christ. Elles repaissent leur esprit de journaux et de littérature frivole. Trouveront-elles Christ là? Est-ce par de pareils moyens que le Saint-Esprit nourrit l'âme de Christ? Est-ce là cette pure rosée sur laquelle la manne céleste descend pour servir d'aliment aux rachetés de Dieu dans le désert? Hélas non, ce sont les grossiers aliments auxquels l'esprit charnel trouve son plaisir. La parole de Dieu nous dit qu'il y a, dans le chrétien, deux natures. Qu'on se demande laquelle de ces deux natures se nourrit des choses de ce monde. Est-ce la vieille ou la nouvelle? La réponse n'est pas difficile. Laquelle des deux désirons-nous entretenir? Si je désire sincèrement croître dans la vie divine, si mon but principal est d'être rendu semblable à Christ et de lui être dévoué, si j'aspire sérieusement à faire des progrès au-dedans, je chercherai toujours la nourriture que Dieu m'a préparée pour mon accroissement spirituel. C'est tout simple. Les actions d'un homme sont le plus sûr indice de ses désirs et de ses intentions. Ainsi, si je rencontre quelqu'un qui, faisant profession d'être chrétien, néglige sa Bible et trouve néanmoins suffisamment de temps pour lire les journaux et d'autres ouvrages futiles ou même pernicieux, il ne me sera pas difficile de juger de la vraie condition de son âme. Je suis sûr que ce chrétien ne peut pas être un chrétien spirituel, qu'il ne se nourrit certainement pas de Christ et qu'il ne peut pas vivre pour lui ou lui rendre témoignage. Si un Israélite avait négligé de recueillir, à la fraîcheur du matin, sa portion du pain que la grâce de Dieu avait préparé pour lui, il aurait bientôt manqué de force pour continuer son voyage. Pareillement, il faut que nous aussi nous fassions de Christ le souverain objet de notre âme, sinon notre vie spirituelle déclinera inévitablement. Des sentiments et des expériences se rattachant à Christ ne peuvent même pas constituer notre nourriture spirituelle, parce que ces sentiments et ces expériences sont variables et sujets à 1000 fluctuations. Le pain de vie, c'était Christ hier, il faut que ce soit Christ aujourd'hui et éternellement. De même que nous ne pouvons rien mélanger avec ce qui communique la vie, nous ne devons rien mélanger avec ce qui l'entretient. Un homère de manne devant le témoignage. Il est parfaitement vrai que, comme Israël a mangé du blé du pays, Josué 5, nous pouvons en esprit et par la foi même maintenant, nous nourrir d'un Christ ressuscité et glorifié, monté au ciel en vertu d'une rédemption accomplie. Et non seulement cela, mais nous savons que, quand les rachetés de Dieu seront entrés dans les régions de la gloire, du repos et de l'immortalité, ils en auront fini de fait avec la nourriture du désert. Mais ils n'en auront pas fini avec Christ, ni avec le souvenir de ce qu'il a été comme aliment dans le désert. De même, Dieu voulait qu'Israël, au milieu du lait et du miel de la terre de Canaan, n'oublie jamais ce qu'il avait soutenu durant les 40 années de son séjour dans le désert. Voici la parole que l'Éternel a commandée. Qu'on en remplisse un homère pour le garder pour vos générations, afin qu'elle voie le pain que je vous ai fait manger dans le désert lorsque je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, Aaron la posa devant le témoignage pour être gardée. Versets 32 à 34. Précieux monument de la fidélité de Dieu. Il ne les laissa jamais mourir de faim, comme leurs cœurs incrédules s'y étaient attendus. Il fit pleuvoir du pain du ciel pour eux, veilla sur eux avec toute la tendresse d'une mère, usa de patience envers eux, les porta sur des ailes d'aigle. Et s'ils avaient persévéré dans la grâce, il les aurait mis pour toujours en possession de toutes les promesses faites à leur père. La cruche de manne avec la portion d'un jour et posée devant l'Éternel était le mémorial de la fidélité de Dieu à pourvoir aux besoins de ceux qu'il avait délivrés des mains de l'ennemi. Il n'y eut certainement point de verre dans cette cruche, ni aucune corruption. Assimiler la vérité et mettre la parole en pratique. Il n'en était pas ainsi toutefois quand l'homme amassait la manne pour lui-même. Alors les symptômes de la corruption se manifestaient bientôt. C'est notre privilège, jour après jour, de nous nourrir de Christ comme étant celui qui descendit du ciel pour donner la vie au monde. Mais si quelqu'un veut faire provision pour le lendemain, c'est-à-dire mettre la vérité en réserve, en dehors du besoin présent qu'il en a, au lieu de la mettre à profit pour le renouvellement de ses forces, cette vérité se corrompra certainement. Apprendre la vérité est quelque chose de très sérieux, car tous les principes que nous avons appris, nous sommes appelés à les manifester d'une manière pratique. Dieu ne veut pas que nous soyons des théoriciens. Il y a un grand danger à ce que l'intelligence devance la conscience et les affections. Plusieurs semblent d'abord faire des progrès rapides, puis ils s'arrêtent et paraissent rétrogradés. Ils ressemblent à l'Israélite qui recueillait plus de manne qu'il ne lui en fallait pour un jour. Il pouvait paraître beaucoup plus diligent que les autres, mais tout ce qu'il recueillait au-delà de ses besoins du jour non seulement était inutile, mais il s'y engendrait des vers. Le chrétien aussi doit faire usage de ce qu'il a. Il doit se nourrir de Christ parce que son âme a besoin de lui. Ce n'est qu'à la foi et aux besoins présents de l'âme que le caractère et les voies de Dieu, l'excellence et la beauté de Christ, comme aussi les vivantes et profondes réalités de l'Écriture, sont révélées. Il nous sera donné davantage à mesure que nous ferons usage de ce que nous avons. La vie du croyant doit être pratique, et c'est en ceci que nous sommes facilement en défaut. Il arrive souvent que ceux qui avancent le plus rapidement dans la théorie sont les plus lents dans la pratique et l'expérience, parce que chez eux, c'est plus un travail de l'intelligence que du cœur et de la conscience. Nous ne devrions jamais oublier que le christianisme n'est pas un assemblage d'opinions ou de vues ou un système de dogmes. Il est avant tout une réalité divine, quelque chose de personnel, de pratique, de puissant, se manifestant dans tous les événements et dans toutes les circonstances de la vie journalière. Il est ce qui découle du fait que nous sommes unis à Christ et occupés de lui. On peut avoir des idées correctes, des principes saints, sans aucune communion avec Christ. Lecteur chrétien, pensez-y sérieusement. Vous n'êtes pas seulement sauvé par Christ, vous vivez aussi de lui. Cherchez-le chaque jour de bonheur, cherche-le lui seul. Quand quelque chose attire votre attention, demandez-vous, cela m'apprend-il quelque chose de Christ ou me rapprochera-t-il de sa personne? Si la réponse est négative, rejetez cette chose sans hésiter, quand même elle se présenterait à vous sous l'aspect le plus agréable. Si vous avez réellement pour but de faire des progrès spirituels, de connaître Christ personnellement, Alors faites de Christ votre nourriture habituelle. Allez, recueillez la manne qui tombe sur la rosée et nourrissez-vous-en avec une faim sans cesse aiguisée par une marche vigilante avec Dieu à travers le désert. Le sabbat. Il y a dans ce chapitre encore un autre sujet que nous mentionnerons, savoir l'institution du sabbat dans sa liaison avec la manne et avec la position d'Israël telle qu'elle est présentée ici. Depuis le chapitre 2 de la Genèse jusqu'au chapitre 16 de l'Exode, il n'est pas fait mention de cette institution. Ceci est remarquable. Le sacrifice d'Abel, la marche d'Énoch avec Dieu, la prédication de Noé, l'appel d'Abraham, avec l'histoire détaillée d'Isaac, de Jacob et de Joseph, sont tous racontés, mais il n'est fait aucune allusion au sabbat jusqu'au moment où nous voyons Israël reconnu comme un peuple en relation avec l'Éternel et sous la responsabilité qui était la conséquence de cette relation. Le sabbat a été interrompu en Éden, et nous le voyons de nouveau institué pour Israël dans le désert. Mais, hélas, l'homme n'aime pas le repos de Dieu. Et il arriva, le septième jour, que quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, et ils n'en trouvèrent point. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusque à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois ? Voyez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au sixième jour du pain pour deux jours. » Versets 27 à 29. Dieu voulait que son peuple jouisse d'un doux repos avec lui. Il voulait lui donner du repos, de la nourriture, et le désaltérer, même dans le désert. Mais le cœur de l'homme n'est pas disposé à se reposer avec Dieu. Les Israélites pouvaient se rappeler le temps où ils étaient assis auprès des pots de chair au pays d'Égypte, mais ils ne pouvaient pas apprécier la bénédiction d'être assis, chacun dans sa tente, jouissant avec Dieu du repos du sabbat et se nourrissant de la manne du ciel. Et remarquez qu'ici le sabbat est présenté comme un don. L'Éternel vous a donné le sabbat. Verset 29. Plus loin dans ce même livre, nous le trouvons sous la forme d'une loi accompagnée d'une malédiction et d'un jugement en cas de désobéissance. Mais soit que l'homme déchu reçoive un privilège ou une loi, une bénédiction ou une malédiction, sa nature est mauvaise. Il ne peut ni se reposer avec Dieu, ni travailler pour Dieu. Si Dieu travaille et lui prépare un repos, il ne veut pas garder ce repos. Si Dieu lui dit de travailler, il ne veut pas faire les œuvres que Dieu lui propose. Tel est l'homme. Il n'aime pas Dieu. Il se servira du sabbat pour s'exalter lui-même, ou comme d'un témoignage de sa propre piété. Mais le chapitre 16 de l'Exode nous montre qu'il ne peut pas estimer le sabbat de Dieu comme un don, et au chapitre 15 des Nombres, versets 32 à 36, nous voyons qu'il ne peut pas le garder comme une loi. Or, nous savons que le sabbat, aussi bien que la manne, était un type. En lui-même, le sabbat était une bénédiction, une faveur de la part d'un Dieu d'amour et de grâce, qui voulait, en donnant un jour de repos sur sept, adoucir le travail et la peine sur une terre maudite à cause du péché. De quelque manière que nous considérions l'institution du sabbat, nous la voyons toujours, dans ses rapports avec l'homme ou avec la création animale, comme un témoignage de la grâce divine. Et si les chrétiens gardent le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur, d'après les principes qui lui sont propres, on peut discerner dans ce jour le même caractère de grâce. Le sabbat a été fait pour l'homme, Marc 2, verset 27, bien que l'homme ne l'ait jamais gardé d'une manière conforme à la pensée de Dieu. Ce jour est important à la fois comme type du repos éternel qui reste pour le peuple de Dieu, et comme ombre de ce dont la foi jouit maintenant dans la personne et dans l'œuvre de Christ ressuscité. Que Dieu nous garde de porter atteinte au jour miséricordieusement mis à part pour le repos de l'homme et de la création animale, et plus encore d'attaquer la place distincte qu'occupe le jour du Seigneur dans le Nouveau Testament. Comme homme, nous pouvons apprécier le premier de ces jours, et comme chrétien, jouir du second. Si le Seigneur le permet, nous reviendrons sur ce sujet. Puissions-nous apprendre à apprécier davantage le repos que notre Dieu a préparé pour nous en Christ. Et, tout en jouissant de lui comme étant notre repos, nourrissons-nous de lui comme de la manne cachée, Apocalypse 2, verset 17, conservée dans le lieu très saint. C'est le mémorial de ce que Dieu a accompli en notre faveur en descendant ici-bas dans sa grâce infinie, afin que nous puissions être devant lui selon la perfection de Christ et nous nourrir à jamais de ses richesses insondables.